Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte! Bonjour, ici Laetitia. Dans cet épisode, j'accueille Samantha Bazan, botaniste de profession, chargée de la conservation et de la valorisation des herbiers du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. En plus de sa passion pour la botanique et les herbiers, Samantha est aussi une jardinière urbaine qui aime expérimenter plein de choses dans son petit jardin et son appartement en plein cœur de Montpellier. Dans cet épisode, on parle de son métier, qui est fascinant, mais aussi de la manière dont la connaissance de la botanique peut aider à bien comprendre ses plantes et à bien s'en occuper. À tout de suite pour l'épisode. Bonjour Samantha. Merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte. Ça fait quelques mois maintenant qu'on se connaît, puisque tu nous fais l'honneur et le plaisir de relire certains des articles du magazine, avec ton œil avisé de botaniste. Et justement, je vais te demander pour commencer de te présenter et nous dire en quoi consiste ton métier.
Alors, moi je suis botaniste et je suis plus précisément conservatrice des herbiers du CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Donc, moi, mon métier, c'est je conserve, je valorise et j'enrichis cette collection d'herbiers-là. Et puis, j'appuie les chercheurs dans leurs projets sur tous les aspects liés à la botanique.
Et à quoi ça ressemble un herbier de botaniste? J'imagine que ce n'est pas tout à fait pareil que nos petits herbiers d'enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se présente et puis surtout à quoi ça sert?
Alors, ça ressemble quand même pas mal aux herbiers qu'on faisait quand on était enfant. C'est des échantillons de plantes donc qui sont séchés et qui sont accompagnés d'une étiquette. Et c'est là que ça diffère un peu parce que dans les herbiers qui sont plus scientifiques, les infos de l'étiquette, en fait, c'est toute la valeur de l'échantillon. C'est tout ce qui est important. Donc, dessus, on marque où c'est qu'elle a été collectée, maintenant avec des coordonnées GPS de la manière la plus précise possible, qui c'est qui l'a collectée, son nom, évidemment, sa famille, et puis toutes les infos qu'il y a autour, la taille de l'arbre, le type de sol, toutes les infos qu'on peut collecter. Il y a aussi tous les noms dans les langues locales, les usages. Et du coup, c'est toutes ces infos-là qui, derrière, pourront être utilisées pour la recherche.
D'accord. Et toi, tu collectes également les plantes? Tu travailles aussi sur le terrain ou uniquement côté laboratoire, études, après coup?
Alors, ça m'arrive. Alors, le cœur de mon métier, c'est vraiment à Montpellier, dans l'herbier, donc gérer la conservation, accompagner les chercheurs. Mais c'est aussi parfois aller sur le terrain pour faire des expertises, des inventaires botaniques. Et du coup, dans ces cas-là, oui, on collecte parce qu'en fait, il existe des centaines de milliers d'espèces et on va dans des endroits très, très différents. On peut aller en Mongolie comme on peut aller au Sénégal. Et du coup, les flores sont complètement différentes. On ne peut pas tout connaître. Donc, quand on fait un inventaire, si on ne connaît pas, ce n'est pas grave. On va prendre des photos et surtout, on va prendre un échantillon. Donc, on ramasse les parties de la plante qu'on trouve, si possible avec des fleurs ou des fruits. C'est quand même plus simple que d'avoir juste une feuille pour identifier derrière. Puis on ramène tout ça en Europe, en France, dans l'herbier. Et nous, ça nous permet après de pouvoir observer l'échantillon avec une loupe, avec des ouvrages de botanique, et puis surtout de le comparer avec les autres échantillons d'herbier qu'on a pour pouvoir identifier précisément les espèces.
D'accord. L'objectif, c'est surtout l'identification ou il y a d'autres objectifs derrière ça?
Alors, l'objectif premier des herbiers, ça va être à la fois la description. Parce qu'il faut savoir que quand on découvre une nouvelle espèce, ça arrive encore aujourd'hui, mais ça arrive encore. Ça va être l'échantillon d'herbier, ça va être la plante qu'on décrit pour la première fois. Et c'est elle qui sert de référence. C'est-à-dire qu'on va dire, la plante a fait telle taille, elle a telle feuille, elle a telle fleur. La référence, c'est cet échantillon-là qui est conservé dans un herbier. Et ça fait référence au niveau mondial. Donc ça, c'est une des premières utilités de l'herbier, c'est de décrire les plantes et du coup, derrière, de les identifier. Parce que ça nous sert de comparatif, en fait. Quand on ramène des plantes, on ne les connaît pas, on utilise des flores et on utilise des herbiers pour comparer et valider des identifications. Ça, c'est plutôt ce que je fais moi. Je ne décris pas trop de plantes. Mais par contre, comme je fais des inventaires sur le terrain et sur des terrains très divers, avec des fleurs très différentes, et évidemment, je ne connais pas toutes les espèces, ramener ces échantillons-là, ça va me permettre de les identifier a posteriori et avec certitude.
Et ça garde aussi, j'imagine, une trace quelque part des espèces qui étaient présentes à ce moment-là, à cet endroit-là.
Oui, tout à fait. Ça, c'est les usages qui sont moins liés à la botanique, mais qui peuvent être liés, par exemple, au changement climatique. Ça va être de savoir, telle espèce, elle était présente à ce moment-là, à cet endroit-là, et puis elle était en fleur à ce moment-là. Et du coup, ça nous permet, avec les centaines de millions de spécimens qui sont conservés dans les herbiers et qui aujourd'hui sont en base de données, numérisées et accessibles à tous, de faire des études gigantesques et de savoir... La plante, avant, elle florissait à cette période-là. Avant, elle était présente à cet endroit-là. Et ça nous permet d'avoir un recul historique de plusieurs centaines d'années, puisque les herbiers les plus vieux, c'est fin du XVIe siècle. Donc, ça donne quand même un recul. Et ça nous permet d'étudier tous ces changements-là, puisque c'est un témoin de la présence de cette espèce à cet endroit-là.
D'accord, c'est super intéressant, hein, les herbiers, ça a l'air passionnant. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivée à faire ce métier ?
Oui, alors j'ai fait des études un peu aventureuses. J'ai pas trouvé tout de suite... Je trouve que les études, c'est aussi l'occasion de tester des choses et de voir ce qui nous plaît.
Exactement.
Donc, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait des prépas, j'ai fait trois types de licences différentes. J'ai même tenté le concours des écoles du paysage. Je me suis lamentablement échouée. Mais ça m'a permis de tester plein de choses et de m'intéresser à plein de sujets différents. Et puis après, j'ai trouvé un master en biodiversité végétale tropicale à Montpellier, que j'ai trouvé passionnant et qui m'a vraiment orientée là-dessus. Et c'est pendant ce master que j'ai fait du bénévolat à l'herbier de Montpellier, qui est un herbier qui est méconnu, alors que c'est un des 20 plus grands au monde. Enfin, c'est vraiment, il y a 3,5 millions de spécimens dedans. Donc c'est un truc énorme.
Waouh.
Pas grand monde qui est au courant. Il est fabuleux. Il y a des herbiers historiques dedans. Enfin, c'est génial. Du coup, j'ai bossé là-dedans. J'ai travaillé un peu sur tous les aspects de l'herbier avec la conservatrice. C'était vraiment génial. Et ça m'a vraiment passionnée. Et donc, je me suis dit, TC. Alors, il faut savoir qu'il y a très, très peu de postes.
Ça doit faire rêver plus d'une personne.
C'est ça. Ça a été un peu dur après. J'ai trouvé quand même un poste où j'ai inventorié les herbiers en Pays de la Loire, donc chez des particuliers, dans des musées.
C'était génial.
Pendant deux ans, je me suis trimballée un peu partout dans la région et j'ai vu des choses géniales, quoi. Découvert des herbiers. Et donc, ça a permis de valoriser aussi ce patrimoine-là, de montrer l'intérêt que ça peut avoir pour la science, mais aussi pour le patrimoine, parce que c'est aussi un aspect historique qui est important. Et voilà. Et du coup, il y a deux ans, j'ai eu la chance d'avoir... de décrocher ce poste au CIRAD qui est génial parce qu'il y a à la fois l'aspect herbier et à la fois l'aspect aller sur le terrain, étudier les plantes vivantes et c'est vraiment une chance.
Tu vois, c'était bien toutes ces petites explorations que tu as faites dans tes études. Finalement, ça t'a mené quand même un très beau métier et un très beau poste aujourd'hui. On faisait ce petit aparté sur ton métier parce que déjà, c'est super intéressant et puis assez hors du commun hein, quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait surtout parler avec toi de la manière dont la connaissance que tu as de la botanique peut influencer ou pas, tu vas nous raconter, ta façon de jardiner. Et c'est vrai que c'est un thème qui nous tient à cœur chez Vert Magazine parce que depuis le début, on est assez convaincus, nous, que c'est en comprenant vraiment les plantes, la manière dont elles fonctionnent, leurs besoins, la façon dont elles se reproduisent, etc., qu'on apprend à mieux s'en occuper. Donc, on essaye à chaque fois dans nos articles du magazine de pas juste dire « faites ci, faites ça, arroser deux fois par semaine, planter à tel endroit, au soleil, pas au soleil », mais essayer de faire comprendre le pourquoi du comment et du coup d'aider les gens comme ça à mieux s'occuper de leurs plantes. Bref, petite parenthèse fermée, revenons à toi et du coup parlons un petit peu de ta double casquette de botaniste dans ta vie professionnelle et de jardinière dans ta vie personnelle. Donc pour commencer, est-ce que tu as grandi en contact avec la nature ? Est-ce que tes parents jardinaient, ton environnement familial jardinait ? Et comment toi t'en es venue à t'intéresser aux plantes et au jardinage ?
Alors, j'ai toujours été un peu baignée dans le jardinage parce que... Alors, j'ai grandi en banlieue de Toulouse, dans un quartier un peu résidentiel, donc avec des maisons, avec des jardins. Et ma mère a toujours adoré jardiner. Alors, elle a un peu sa façon à elle de jardiner. C'est un petit peu...
Dis-nous ça.
C'est un petit peu off-ling. Donc, c'est très rigolo parce que on est dans un lotissement des années 90, très standard. Toutes les maisons bien propres et puis... Il y a le jardin de ma mère, ça déborde de partout, c'est une espèce de jungle, on ne voit même plus la maison. C'est vraiment... Donc elle adore, elle ramasse des plante, elle tente des trucs, elle coupe son rosier, elle le plante par terre pour voir si ça fait quelque chose d'autre. Enfin, vraiment, elle essaie des choses, donc c'est un peu la jungle. Il y a 30 ans, elle a récupéré des bambous, elle les a plantés dans son jardin quand ça se faisait pas du tout. Donc maintenant, on est envahi, mais voilà, c'est une jungle. Mais c'est vraiment génial, j'aime bien cet aspect-là de laisser faire les choses, de tenter et puis de pas forcer... la plante qu'on veut absolument dans le jardin, elle essaie des trucs, elle plante, elle voit si ça pousse, si ça prend pas. Puis elle m'a vraiment inculqué ça. Et quand j'avais 6 ans, j'ai planté un gland et un marron dans ce jardin. Du coup, maintenant, on a un chêne qui est plus grand que la maison, dont on sait plus quoi faire.
Ah, parce qu'on est quand même
dans... Il y a un marronnier qui, tous les ans, essaie de repousser, qu'elle arrache et qu'elle jette un peu plus loin. Voilà, c'est cet aspect-là qu'elle m'a vraiment enseigné, en fait, de faire avec. C'est des êtres vivants, ils ont leur vie, comme ils peuvent, et puis de pas vouloir forcer les choses. Et c'est vrai que ma grand-mère fait un peu pareil. Donc là, c'était vraiment la campagne. Donc là, c'était super parce qu'on allait se balader, on faisait des cabanes dehors. C'était vraiment vivre dehors quand on était là-bas. Et elle a aussi un peu ce truc-là de... Je vois une fleur qui me plaît quand je fais ma balade. J'essaye d'en mettre chez moi. Et ça, c'est vraiment un truc que je retrouve aujourd'hui dans mon jardin, dans mon mini-jardin jungle aussi, que j'essaie de continuer.
Alors justement, tu parles d'un jardin jungle, j'ai l'impression que tu t'es un peu inspirée de ta maman. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi aujourd'hui? Comment ça se présente?
Il faut savoir que moi, mon jardin, il est vraiment tout petit. Après, j'ai la chance d'avoir un jardin en centre-ville, mais voilà, il fait moins de 100 mètres carrés. La terrasse et la cabane qui font la moitié de la... Donc ça ne laisse pas beaucoup d'espace.
Parce que tu habites à Montpellier, hein, je le rappelle.
Oui, j'habite à Montpellier en centre-ville. Et oula, ça fait même pas un an qu'on a ce jardin-là et qu'on peut aussi se projeter et planter des choses un peu à long terme. Donc on a essayé plein de trucs. Donc on a quand même planté... On a planté des arbres, on a planté un cerisier, un citronnier. Je ne sais pas comment ça va pousser. Et puis vraiment, on essaye d'optimiser chaque centimètre carré parce qu'il y a tellement de plantes que je veux essayer dans le jardin que... Voilà, on sait déjà plus où les mettre, mais on continue d'essayer des trucs, de planter des choses, de viser l'autonomie alimentaire.
Ah, donc tu as un coin potager aussi, du coup, dans ce jardin?
Alors, on essaie. Donc là, on a agrandi un peu cette année le coin potager. On peut à peine marcher dans le jardin. Et puis, on essaye d'augmenter toujours sa taille. Donc là, on plante des salades dans des pots en les accrochant au mur. On va planter des patates et des tomates dans des sacs pour essayer d'envahir un peu la terrasse. Donc, c'est vraiment essayer d'en mettre partout.
D'optimiser l'espace. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent parce qu'on essaye aussi d'aider les gens qui jardinent en balcon même ou en petite terrasse. Et comme tu le dis, mettre des choses sur les murs, utiliser aussi des pots, même si on a un bout de jardin, mais rajouter quand même des petits pots, des jardinières un peu à droite à gauche, c'est une bonne astuce.
Ah oui, c'est incroyable l'espace qu'on peut gagner en accrochant au mur, en rajoutant sur les terrasses. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pousser. Il y a beaucoup de plantes qui se contentent finalement de peu.
Tu peux nous citer quelques espèces que tu as, à la fois côté plantes et puis au potager. Enfin, t'as parlé un petit peu de salade et pommes de terre. Mais...
Là, au potager, c'est surtout... On a planté beaucoup, beaucoup, beaucoup de fèves. Et vu que le potager est tout petit, on en a planté aussi un peu partout ailleurs dans le jardin, dans les parterres, dans les pots, partout. Donc là, on a beaucoup de fèves. Et puis là, le potager est plutôt dans notre chambre pour l'instant parce qu'on a fait beaucoup de semis.
D'accord.
Je ne sais même pas combien de plantes on a. On a testé plein de trucs. Donc, il y a évidemment des tomates, des choses comme ça. Mais j'ai fait des échanges de plants. Et puis, avec les graines, on a testé des trucs de l'hibiscus, enfin, des choses un peu plus original. Donc là, pour l'instant, ça pousse beaucoup dans la chambre et on attend sagement les seins de glace pour planter et puis surtout la fin des fèves pour pouvoir enchaîner et pas laisser trop de temps vide le potager. Il y a pas mal de choses. Puis après, au niveau des fleurs, des fleurs et des plantes, parce que je suis pas forcément très fleur. On a planté des magnolias, on a un citronnier, ça c'est une chance à Montpellier, on peut avoir des citronniers en pleine terre. Et qui produisent vraiment bien, donc ça c'est super. Puis on a des noyaux, là on a un amandier qui pousse, puis on a mis des choses plus méditerranéennes, l'olivier bien sûr, la lavande.
J'allais te demander, j'imagine que tu prends en compte quand même en tant que botaniste la nature de ton sol, de ton climat méditerranéen pour choisir ce que tu mets. Est-ce que parfois t'essayes quand même de planter quelques petites autres choses qui a priori ne pousseraient peut-être pas, mais tu tentes?
Ouais, clairement, on fait avec le jardin qu'on a, donc on a une terre qui est pour l'instant pas folle. Et puis on est à Montpellier, donc l'été c'est très très sec, et puis on veut pas s'amuser à arroser trop le jardin. Enfin, l'idée c'est pas d'utiliser de l'eau pour arroser du gazon, clairement. Du coup, on essaye quand même d'adapter les plantations à des choses qui tiendront dans notre sol et qui n'auront pas besoin de trop d'eau. Après, c'est vrai que j'ai tendance à craquer un peu. Il y a des choses qui me plaisent vraiment, que j'ai toujours rêvé d'avoir dans mon jardin. Donc, j'ai pas mal de plantes un peu terre de bruyère. J'ai un érable, j'ai les magnolias, j'ai même un peu des hortensias de mamie. Donc ça, je vais voir si j'arrive à les faire tenir. On fait des essais. On va voir si ça tient.
D'accord. Est-ce que quand tu pars en expédition, t'es un peu tentée de ramener des espèces de là-bas ? J'imagine que tu vois des choses incroyables et que tu dois te dire « ça serait pas mal dans mon jardin ».
Alors, c'est vrai que c'est très tentant. Des fois, on voit des choses... Après, je travaille beaucoup dans des milieux un peu semi-désertiques, sahéliens. Donc déjà, c'est des plantes... On pourrait se dire que c'est des plantes qui tiendront bien à Montpellier. Mais bon, qui demandent un peu plus de chaleur, peut-être. Ouais, je sais que voilà, c'est des plantes qui ne tiendront pas forcément. Et puis, il faut savoir aussi qu'on va sur des environnements qui sont soit protégés, soit souvent dégradés. Donc, vouloir récupérer des plantes en plus, en plus de ce qu'on collecte déjà pour les herbiers, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est tentant de ramener des graines en particulier. Après, il y a le gros problème qui se pose, qui est un problème moral, du fait que quand on ramène des plantes qui sont étrangères notre pays, on a le risque d'introduire des plantes envahissantes, voire des parasites, et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même en tête, donc il faut faire très attention. Après, c'est clair que quand on ramène des graines de baobab, il y a peu de chances que le baobab devienne envahissant en Europe, donc si on en plante un peu dans son bureau, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention, parce qu'il y a beaucoup de plantes envahissantes aujourd'hui, ou de parasites de nos espèces qui ont été ramenées comme ça de pays. Du coup, il faut, voilà, on est quand même très attentif à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, donc il faut quand même faire attention. D'autant plus que c'est notre métier, donc on est conscient de ces risques-là. Donc on y fait très attention.
En tant que voyageur, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait quand on bouture comme ça, à droite à gauche, dans la nature.
Ah ouais, il faut être super attentif entre les espèces qui sont protégées et qui sont souvent fragiles. Des fois, quand on est dans une forêt un peu tropicale, c'est exubérant, on se dit, bon, il y en a plein, c'est pas parce que je vais ramener un petit bout que ça va faire une grosse différence. Bah, déjà, si, parce que des fois, les populations, elles sont vraiment qu'à un seul endroit. Même s'il y en a beaucoup à l'endroit où on est, ben, ça peut être le seul endroit où elles sont présentes. Et puis surtout, quand on les ramène après en Europe, il y a un risque d'introduire des espèces envahissantes ou d'introduire des parasites. Et ça, il faut le garder en tête.
D'accord, on reste sage. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois botaniste et que tu aies toutes ces connaissances techniques et scientifiques, ça influence ta façon de jardiner ? Et de quelle manière ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment, du coup, toi, tu jardines au quotidien ? Est-ce que tu te sers de tout ça ?
Alors, évidemment, je m'en sers. Après, être botaniste, ça ne veut pas dire être bon jardinier, hein, concrètement. Alors, je ne veux pas parler pour mes collègues. On a une connaissance qui est quand même très universitaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un nom latin sur la plante, ce qui est déjà devenu une maladie professionnelle. Je ne vais pas m'empêcher de vouloir identifier tout ce que je vois, mais ça n'aide pas forcément toujours à savoir comment s'en occuper. Clairement, ça aide, parce que quand on connaît l'espèce et qu'on est capable de la reconnaître, de connaître sa famille, et surtout de savoir d'où elle vient, dans quel milieu elle pousse, dans quel contexte, ça nous permet de comprendre aussi les conditions qu'on va lui donner pour la cultiver.
Et oui, c'est ça. Ça, c'est important quand même.
C'est ça. Toutes les plantes n'ont pas besoin de plein de soleil et plein d'eau. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Au contraire, c'est souvent comme ça qu'on a tendance à faire mourir nos plantes. Donc, d'avoir la connaissance derrière botanique et sur l'écologie de la plante, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qu'on peut lui donner. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est important. Mais après, c'est vraiment deux milieux différents. Après, il y a des chercheurs, effectivement, qui travaillent sur, en particulier sur l'agronomie et sur les plantes alimentaires, et donc qui cultivent des plantes, et donc qui ont des connaissances sur la nutrition des plantes, des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis surtout sur l'identification des plantes et puis les faire sécher entre deux feuilles. Du coup, ce n'est pas forcément compatible avec le fait de les faire survivre.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que d'avoir cette curiosité, et puis on a quand même plus de facilité à utiliser des outils ou à chercher pour avoir ces informations-là. Et du coup, ça aide dans le jardin à mieux comprendre comment faire les choses.
Pour un jardinier lambda, on va dire, qui n'est pas comme toi un professionnel de la botanique, tu dirais que le conseil en fait, pour progresser, apprendre à bien s'occuper de ses plantes, c'est surtout de, comme tu disais, se renseigner sur leur milieu d'origine. Donc du coup, leur appellation en premier, pas juste pour savoir comment elle s'appelle, mais pour avoir derrière ces informations de milieu d'origine, et de prendre en compte ça, la manière dont elles vivent naturellement, ces plantes, pour s'en occuper.
Oui, ça, je pense que c'est vraiment important. Après, il faut savoir que, surtout maintenant, avec toutes les espèces qui sont plus horticoles. Parce qu'en fait, dans les espèces qu'on va avoir dans nos jardins, il y a des espèces qui sont très proches des variétés sauvages qui existent. Donc ça, effectivement, aller voir comment elles poussent, ça nous aide vraiment à savoir comment les planter et les entretenir. Après, il y a beaucoup de variétés qui sont des sélections, qui sont des plantes qui ont été travaillées en horticulture et dont, du coup, les besoins varient beaucoup par rapport à l'espèce sauvage. Donc là, il faut quand même faire confiance aux horticulteurs. Il y a des plantes qui sont, voilà, qui ont été sélectionnées parce qu'elles résistaient plus au froid ou elles ont moins besoin d'eau. Du coup, il faut quand même faire attention à ça et distinguer un peu les espèces qui sont plus sauvages et les espèces qui ont été sélectionnées en horticulture.
D'accord. Et tu nous as pas trop parlé de ton intérieur. Je crois que tu as une belle jungle urbaine aussi dans ton appartement. Au niveau des plantes vertes, c'est la jungle aussi un petit peu chez toi.
Là, je les ai recomptés récemment et là, je commence à en être, sans compter toutes les boutures qui traînent, j'en suis à plus de 60 plantes pour moins de 70 mètres carrés. Je pense que peut-être une plante par mètre carré, ça va être la limite qu'on va se fixer parce que sinon, ça va commencer à être compliqué, surtout quand elles vont commencer à bien grandir. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu... Mais en même temps, je trouve ça tellement passionnant. Et les plantes d'intérieur, ce que j'aime, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont... Il y a quand même beaucoup de plantes qui viennent de milieux tropicaux humides. Et il y a certaines familles en particulier qui se bouturent et se multiplient super bien. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir couper un petit bout d'une plante, le mettre un peu dans l'eau et pouf, ça fait une nouvelle plante. Et ça, je trouve ça magique. C'est un peu comme quand on plante une graine et que 3 mois après, on mange des tomates, quoi. Enfin, je trouve ça, il y a un côté vraiment magique à pouvoir aider. Après, on fait pas grand-chose finalement, nous. On aide un peu et puis la plante, elle arrive à se reproduire, à se multiplier. Puis derrière, ça ouvre la porte aussi à faire des échanges. Maintenant, il y a plein de réseaux. Il y a les réseaux Troc ta plante. Et puis même entre collègues, entre familles, on échange des plantes et des boutures. Et ça, je trouve ça génial. Mais bon, de suite, ça ouvre la porte à un très grand nombre de plantes.
Mais c'est pour le donner aux copains, c'est bon. On a une excuse. Ouais.
Voilà, ça donne un peu des raisons de le faire. Mais c'est vrai que c'est tellement passionnant de pouvoir multiplier les plantes à l'infini et les échanger avec d'autres gens passionnés que... Ça peut vite prendre de l'ampleur.
Et à Montpellier, tu souffres pas trop de la sécheresse, notamment avec tes plantes d'intérieur qui ont besoin de pas mal d'humidité puisqu'elles sont de milieux tropicaux. Et puis même, j'imagine, au jardin, au niveau arrosage. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes astuces là-dessus ?
Alors, c'est vraiment deux milieux différents. À l'intérieur, on arrive à tenir... Bon, elles n'ont pas encore passé l'été dans l'appartement, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que cet hiver, on a tout rapproché des fenêtres et on a quand même beaucoup brumisé pour réussir à maintenir les conditions qui vont bien. Et je trouve que pour les plantes d'intérieur, encore plus que pour les plantes d'extérieur, connaître le milieu d'origine de la plante, ça aide vraiment beaucoup. Parce qu'on a tendance à se dire que c'est des plantes vertes, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Alors qu'en fait, il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, d'autres pas du tout. Et je trouve que sur les plantes d'intérieur, c'est encore plus flagrant parce que comme les conditions, elles sont contrôlées, il n'y a pas de pluie, c'est juste nous, dans toute la pluie et le beau temps. C'est vraiment notre responsabilité de comprendre ce dont elles ont besoin et je trouve que c'est encore plus flagrant que pour les plantes d'extérieur. Après, c'est clair qu'à Montpellier, pour le jardin, c'est très compliqué, donc ça, c'est des choix. Donc là, par exemple, on a un jardin très joli et très vert. On sait que cet été, la moitié du jardin, ça va être de la paille, mais parce que voilà, on ne veut pas arroser le gazon. Mmh. Et puis, les endroits qu'il faut vraiment arroser, comme le potager, on s'adapte. Donc là, on a le système des oeillas qui est quand même... vraiment bien.
Tu peux expliquer en un mot ?
En fait, les zoyas, ça va être enterré... Alors, soit il y a des vrais zoyas, très jolis, soit juste prendre un pot en terre cuite, donc qui est poreux, on bouche le trou en bas, on l'enterre dans le potager, et au lieu d'arroser en surface, comme on fait d'habitude, on remplit l'oya, et du coup, ça va se diffuser par capillarité dans le sol. Donc, quand le sol sera sec, il va pomper l'eau qu'il y a dans l'oya, et du coup, ça va vraiment arroser en profondeur, et du coup, il y a beaucoup moins de perte d'eau que quand on arrose en surface en été et que la moitié s'évapore, quoi. Donc ça, pour le potager, l'année dernière, ça a super bien marché. On a enterré 2 gros pots en terre au milieu du potager. En plus, ça ne coûte rien. Bien mettre un couvercle pour ne pas faire un nid à moustiques supplémentaire.
Oui.
ça, c'est très, très important à Montpellier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres villes où c'est pareil. Et ça permet d'arroser beaucoup moins souvent. Et puis, c'est beaucoup plus efficace. Et sur les tomates en particulier, ça marche super bien. Ça, c'est une astuce qui est importante dans le potager. Et après, les zoyas, on peut aussi en mettre dans les pots. Hein. Là, je vais essayer d'en mettre... Ils en font des très jolis. Donc, cette fois qu'ils ne s'enterrent pas entièrement, on n'enterre que le bout. Et du coup, on peut le mettre dans les pots. Donc, ça peut être esthétique aussi dans les pots de fleurs, dans les gros pots d'intérieur surtout. Et donc, ça permet de contrôler mieux surtout quand on part en vacances.
Pour cet été, c'est aussi pratique quand on est absent, le système des OIA. Est-ce que tu as d'autres astuces comme ça à nous partager ou à l'inverse, des erreurs à ne pas commettre que toi, du coup, avec ton œil de botaniste, tu as pu identifier?
Alors, je ne sais pas si c'est l'œil de botaniste ou plutôt l'expérience du jardinier. Un bon jardinier, c'est aussi celui qui accepte de... Voilà, il y a des plantes qui vont mourir, il y en a qui vont survivre, c'est pas grave. Et à partir du moment où on accepte qu'il y a des choses qui meurent, c'est plus simple. Et on arrive à mieux réussir les autres, j'ai l'impression. Donc, je pense que ce n'est pas forcément mes compétences en botanique, parce qu'en dehors de connaître l'écologie, et puis de connaître les grandes familles de plantes, ça peut avoir un intérêt aussi. En dehors de ça, c'est vrai que pour le jardinage, c'est surtout la pratique, la connaissance de son jardin, en fait, de l'endroit où on est, qui quand même varie énormément, hein. Par rapport aux recommandations qu'il y a, ça colle jamais forcément avec l'endroit sur lequel on jardine. Du coup, il faut vraiment connaître l'endroit où on est, sa terre, comment on va passer l'été. Et en fait, c'est en testant, c'est vraiment à l'expérience qu'on se rend compte, bah, ça va marcher, ça va pas marcher. Et ce sera pas forcément les mêmes recommandations dans le jardin d'à côté ou le jardin de mamie. Du coup, il faut arriver à tester dans chaque endroit et accepter aussi la part d'échec. On va avoir.
Super, c'est un bon conseil. Tu as des plantes préférées chez toi, dans ton appart, dans ton jardin ou dans ton herbier au boulot?
Alors, chez moi, il ne faut pas le dire, je ne veux pas rendre les autres jalouses, mais...
on ne leur dira pas.
J'ai des plantes que j'aime beaucoup et à l'intérieur, j'ai des plantes qui sont un peu exubérantes. Même si c'est... Alors maintenant, ça revient très très à la mode, mais à une époque, c'était très ringard ce genre de plantes. Mais tout ce qui est monstera, des choses où vraiment on a l'impression d'être dans la jungle, ça j'aime beaucoup. J'ai quelques plantes un peu qui sont réputées difficiles, qui ne sont pas très accessibles et où j'ai un peu craqué. Pour l'instant, je ne les touche pas trop et ça se passe bien. J'ai une White Fusion qui est très très belle. Donc, c'est un feuillage magnifique, blanc. Le feuillage est magnifique. Par contre, quand on voit sur les groupes d'échange et les groupes de conseils, oh, elle est super compliquée, j'arrive pas à la tenir, moi elle est morte de suite et tout. Donc, ça met un peu, petit coup de pression. Mais bon, moi je l'ai posée dans un coin, elle a l'air de se plaire, j'essaie de pas trop l'arroser, pour l'instant elle se plaît, mais du coup ça met un peu voilà, c'est des plantes qui sont réputées. Après, c'est pas forcément les plantes qui sont réputées les plus difficiles qui le sont, hein. Moi j'ai tendance à bien faire crever les cactus et derrière
mais les cactus sont faussement réputés faciles, c'est... Ils ont une fausse réputation.
Donc voilà, j'ai un peu mes... Puis j'ai une collection d'oxalis aussi. Ça, c'est un truc qui a commencé, une passion qui a commencé avec les oxalis sauvages qui poussent dans le jardin. Je trouve ça super beau. Tout le monde les arrache, mais moi, je trouve ça génial. Et du coup, là, j'ai 5 ou 6 variétés différentes d'oxalis dans mon jardin. C'est un peu particulier, hein, mais moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un peu mes chouchoutes à qui je parle beaucoup et dont je m'occupe un peu plus que les autres.
Ok. Et dans ton herbier, pareil, toi, tes petites chouchoutes?
Dans mon herbier, alors j'ai les plantes, les planches les plus jolies, en fait, je les ai extraites de l'herbier. Je les ai dans une petite pochette à part. Ce qui me permet aussi, quand je fais des visites de l'herbier, de sortir un peu les plus beaux spécimens. Donc, j'ai des nymphéas qui sont magnifiques. Alors, d'un point de vue scientifique, ça a un intérêt assez limité. Par contre, d'un point de vue esthétique, en général, ça fait forte impression. Parce que c'est vrai que notre herbier est plutôt spécialisé dans les graminées. En herbier, c'est moins impressionnant, quoi. Du coup, j'ai ma petite pochette de présentation, j'ai des cactus aussi, et donc ça en herbier c'est impressionnant.
Et ça m'intrigue, comment on met un cactus dans un herbier, parce que moi j'ai l'image de la plante pressée et séchée.
Ben c'est ça, donc ça prend un peu plus de temps avec les cactus parce que c'est plein d'eau et puis il y a les épines, donc c'est compliqué à sécher, mais c'est le même principe, il faut changer les papiers très régulièrement jusqu'à ce que ça arrive finalement à sécher sans moisir. Donc c'est des espèces qui sont, il y a plein de choses qui sont très compliquées à mettre en herbier. Il y a les cactus, il y a les palmiers aussi, cadeau à mettre en herbier. Voilà, il y a des espèces comme ça qui sont un peu compliquées, qu'on arrive. Des fois, on y arrive. Des fois, ça finit par moisir et ça finit à la poubelle. Mais ça, après, ça donne des spécimens sympas. Puis c'est vrai que nous, dans les milieux sahéliens dans lesquels on travaille, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qui ont des épines énormes. Et ça, c'est toujours un cadeau quand on les met en herbier.
Ouais, j'imagine. Ça doit être
grâce à l'habitude.
Ça doit être chouette.
Oui.
Ok, et on a beaucoup parlé de jardinage, c'était un peu le sujet principal, mais je ne sais pas, est-ce que tu as aussi d'autres passions autour du végétal, notamment les plantes sauvages, la cueillette, voilà.
Alors oui, moi c'est même avant d'avoir un jardin, parce que finalement, on a toute une période où on est étudiant et on n'a pas forcément ni jardin ni extérieur où s'exprimer, et du coup, je compensais beaucoup par l'étude des plantes sauvages, donc c'est aller se balader et essayer de reconnaître à la fois les plantes qu'on croisait, qui des fois sont... on les croise tout le temps, on les regarde jamais. Et il y a des choses géniales. Maintenant, on s'en rend compte de plus en plus parce que avec les traitements phyto qui sont arrêtés dans les villes, il y a plein de choses qui poussent dans les trottoirs et c'est fabuleux quand on y pense. Il y a des figuiers qui arrivent à pousser dans des petites fentes de murs et puis toutes les espèces sauvages qui poussent. Quand on les regarde un peu plus près, il y a des choses fabuleuses. Donc ça, c'est très intéressant. Puis même dès qu'on va un peu dans la campagne et qu'on s'intéresse un peu, j'ai eu une période orchidée qui est un peu passée depuis. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les champignons. Si on ne les connaît pas, on ne les voit jamais, alors qu'il y en a partout, des orchidées en France. Et dès qu'on commence à s'y intéresser, c'est passionnant parce que tellement d'espèces, de nuances, de formes qui diffèrent un peu, d'hybrides et tout.
Toi, quand tu te balades, j'imagine, tu ouvres l'œil et tu essayes d'identifier ce que tu rencontres, tu cueilles, tu consommes aussi parfois, tu manges ce que tu cueilles.
Alors j'essaie, c'est vrai que pour le coup, là, être botaniste, il y a un côté rassurant.
Ah oui, c'est sûr.
D'être capable d'identifier avec certitude l'espèce avant de la manger, ça j'avoue que c'est quelque chose que j'osais pas faire avant et que je fais de plus en plus, parce qu'au final, il y a énormément d'espèces qui sont comestibles autour de nous, puis même sans être comestibles, qui ont des intérêts dont on peut se servir. Ça, on s'est un peu déconnecté de ça. Je m'en rends compte quand je vais dans certains pays. Je suis allée en Mongolie, par exemple, et les gens, ils ont une connaissance des plantes. C'est-à-dire qu'ils sont éleveurs, donc ils ne sont pas en contact. Enfin, évidemment, ils sont en contact avec les plantes, mais ce n'est pas leur métier. Et ils peuvent citer 150 plantes différentes. Ils sont capables de les reconnaître de manière certaine. Et ils ont tous les usages de ces plantes-là. Et ça, c'est impressionnant. Et en Europe et en France, on a un peu perdu ça. Encore un peu les grands merlons, maintenant ça revient un peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas, enfin, on n'est plus capable de citer un grand nombre de plantes, on sait pas à quoi elles servent, on sait pas ce qui se mange, et ça je trouve que c'est vraiment dommage.
Là ça te sert d'avoir ce bagage-là quand tu te promènes. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut apprendre des notions de botanique sans pour autant trop se prendre la tête avec beaucoup de jargon scientifique et des détails trop complexes ?
Alors déjà, il ne faut pas avoir peur, ça c'est important, parce que la botanique c'est un monde qui est énorme et dans lequel on peut aller très très loin et ça peut devenir très très compliqué. Mais en fait, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que, bah, par exemple, sur les noms latins, il y a plein de noms latins, c'est très compliqué, il y en a beaucoup qui changent très régulièrement, les familles changent, voilà. Mais ce n'est pas grave en fait, parce que si on a un nom qui était valable à un moment, on peut retrouver les autres, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Et c'est pareil avec tout, il ne faut pas... il faut choisir le niveau auquel on veut situer par rapport à ce qu'on veut faire et il ne faut pas avoir peur de trop se plonger dedans. Et après, il y a quand même y a des ouvrages et puis il y a des aides aujourd'hui qui permettent de s'y intéresser un peu sans avoir besoin d'ouvrir une flore à l'ancienne et de devoir faire des clés d'identification très complexes. Nous, on utilise beaucoup l'application PlantNet. Nous aussi, en tant que professionnels, on l'utilise. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un outil qui est fiable à 100%, mais par contre, c'est vraiment une aide quand on est face à une plante où on n'a vraiment aucune idée de ce que c'est. On n'a même pas une idée de la famille à laquelle elle peut appartenir. Bah, prendre des photos et utiliser cette application, ça nous permet d'avoir déjà des pistes, sans qu'elle nous donne de manière magique forcément le bon nom de la plante, mais déjà ça nous donne le genre ou la famille et ça nous aiguille un peu. Puis après, derrière, on peut aller chercher dans des flores et dans des ouvrages de botanique. Moi, celui que j'ai tendance à recommander, je l'ai acheté à ma mère, à ma grand-mère, je le recommande beaucoup parce qu'il est bien, il est assez complet. Alors, pas forcément sur la flore méditerranéenne, mais sur le reste de la flore de France, il est assez complet. Il y a des très beaux dessins. Et rien qu'avec ça, déjà, on peut identifier beaucoup de plantes sauvages. C'est les guides de la Chaux, des fleurs de France et d'Europe. C'est vraiment un ouvrage qui est accessible et que je trouve... En plus, il n'est pas très, très gros, donc on peut peut-être pas le prendre dans toutes les balades, mais on peut quand même l'avoir sur nous et... Et je trouve que c'est un bon début pour s'intéresser à la botanique. Après, si on veut aller un peu plus loin, il y a la plateforme Tela Botanica, donc qui propose plein d'articles, d'outils, d'identification des fleurs en ligne, etc., qui sont très complets, il faut aller voir, il y a beaucoup de choses, et qui, depuis quelques années, propose un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne gratuit avec des vidéos, des exercices, etc., sur l'initiation à la botanique. Et vraiment, ils partent d'un niveau... Alors, c'est intéressant parce qu'à la fois, on peut le commencer en n'ayant aucune notion en botanique et en même temps, on peut le faire en ayant des notions, on apprend quand même beaucoup de choses. Et donc, ils reviennent sur plein d'aspects et c'est un super outil. Et puis, pour aller plus loin, moi, il y a mon idole absolue, Francis Allais, qui a fait, il a fait plein d'ouvrages passionnants, en particulier sur l'architecture des arbres avec des dessins, sur les forêts et les arbres. Il a des discours qui sont vraiment passionnants. Et c'est un tout petit bouquin qui s'appelle « L'éloge de la plante ». Et c'est vraiment très intéressant parce que déjà, ce n'est pas rédigé comme un ouvrage scientifique. C'est quand même plus littéraire, donc ça se lit très facilement. Il y a des chapitres qui sont un peu plus techniques, mais à la limite, ce n'est pas grave, on peut les sauter. Et il y a des articles, enfin des chapitres qui sont vraiment très intéressants dans la façon dont ils voient les plantes. Et il explique leur vie, leur fonctionnement. Et je trouve ce livre absolument passionnant. C'est vraiment mon livre de chevet de toujours. Voilà, je pense que c'est les conseils que je peux donner si on veut commencer à s'intéresser un peu
à la botanique.
À la bota.
Super. Et on termine avec deux questions qu'on pose à tous nos invités. Alors, il y en a une, tu nous as déjà donné pas mal de recommandations de livres. Mais si tu devais choisir voilà, un livre ou un documentaire, pas forcément que axé sur la botanique cette fois, mais au global, sur le végétal, le monde de la nature. Qu'est-ce que tu nous conseillerais ?
Pas axé sur la botanique, ça va être dur. Après, c'est vrai que j'ai cité beaucoup de choses, mais un ouvrage qui est moins technique, peut-être sur vraiment la botanique, et qui est plus sur le métier de botaniste, c'est un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que moi j'ai adoré, que j'ai relu plein de fois, qui est pas très long, qui est Botaniste, de Marc Janson et de Charlotte Fauve. Et c'est un ouvrage qui est vraiment génial, où il explique son métier de botaniste, qui se rapproche un peu de ce que je fais. Donc lui, il était... Marc Janson, c'était le conservateur de l'herbier de Paris. Donc c'est le plus grand herbier du monde. Et il est spécialiste des palmiers, donc il a aussi fait du terrain, il a fait sa thèse là-dessus. Et donc il explique un peu ce que c'est sa vie de botaniste. Et c'est vraiment pas du tout...
Technique.
Technique et scientifique, hein. C'est... Il y a quelques noms latins dedans, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et j'adore lire ce livre. Il y a des phrases fabuleuses dedans que je cite régulièrement parce que c'est vraiment un de mes bouquins préférés.
Et pour finir, un conseil pour voir la vie en vert.
Alors moi, si je donnais un conseil pour voir la vie en vert, ce serait juste d'observer, en fait. Alors que ce soit son jardin, ses pots, ses petites plantes d'intérieur... Ou juste semer un noyau, une graine, ou alors sortir dehors et regarder ce qui pousse dans les trottoirs ou ce qui pousse un peu partout. C'est vraiment se pencher sur ces choses qu'on a tout autour de nous et qu'on ne regarde pas forcément de près et qu'on ne regarde pas pousser. Et c'est tellement fabuleux de regarder toute la diversité qu'il y a dans le monde végétal, qui est quand même hallucinante. Et puis l'ingéniosité que toutes les plantes mettent en œuvre pour pousser et se multiplier. C'est des choses qui sont tellement communes autour de nous qu'on ne les regarde même plus, alors que c'est vraiment fabuleux et je trouve ça très apaisant et enrichissant de pouvoir regarder ça et observer ça au quotidien.
Génial, super conseil. Bah écoute, merci beaucoup Samantha, merci pour tout ce que tu nous as raconté de ton parcours, ton métier de botaniste et puis ce que tu fais chez toi. Écoute, on se reparle bientôt pour les articles du mag, hein. On ne va pas t'oublier. On t'envoie du boulot.
Oui, toujours là pour...
Super, un grand merci Samantha, à la prochaine.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Si vous aussi vous voulez jardiner comme un botaniste, voici quelques petits conseils. Alors tout d'abord, essayez d'identifier les plantes que vous avez chez vous. C'est pareil tout bête, mais le fait de connaître le nom de vos plantes vous permettra de vous renseigner sur leur milieu naturel et donc sur les conditions d'eau, d'ensoleillement et de température qui leur conviennent le mieux. Gardez en tête que, comme le disait Samantha, toutes les plantes n'aiment pas avoir beaucoup d'eau et beaucoup de soleil, ça dépend. Si ce sont des plantes qui existaient déjà dans votre jardin ou chez vous, ou qu'on vous a donné et dont vous ne connaissez pas le nom du coup, vous pouvez utiliser l'application PlanteNet pour essayer de trouver de quelle plante il s'agit, ou tout simplement prendre une photo et puis l'amener en jardinerie ou à votre pépiniériste et demander de quoi il s'agit. Si ce sont des plantes que vous avez vous-même achetées ou semées, tout simplement pensez à noter leur nom au moment où vous les achetez ou vous les semez. Et on vous conseille d'ailleurs chez Vert Magazine de tenir un petit carnet de plantes dans lequel vous noterez à chaque fois le nom et également la date d'acquisition, les conseils d'entretien de base. Et puis si vous voulez vous familiariser un petit peu avec la botanique, vous pouvez aussi tout à fait ajouter la famille de plantes, son nom latin, le type de feuille, et tout ce qui vous fait plaisir. Pour ne pas oublier ensuite qui est qui, surtout si vous avez une petite jungle urbaine comme Samantha, vous pouvez noter le nom des plantes sur un petit bâtonnet ou un petit caillou, par exemple, que vous mettez dans chaque pot. C'est très utile et ça permet de bien mémoriser. L'autre conseil, c'est d'essayer autant que possible d'adapter les espèces que vous plantez à votre milieu. Si comme Samantha, vous êtes dans un climat méditerranéen, par exemple, évidemment, il vaudra mieux planter des plantes adaptées à un sol sec, à un fort ensoleillement, que d'autres qui aimeraient les milieux très humides, les sous-bois ou les milieux très ombragés. Ça ne veut pas dire, après bien sûr, hein, que vous ne pouvez pas vous faire plaisir avec des espèces un petit peu exotiques de temps en temps, mais il faudra juste garder en tête dans ce cas qu'elles auront besoin de plus d'attention et de soins, et notamment faire attention aux besoins en arrosage. Pensez aussi à prendre en compte le réchauffement climatique. Malheureusement, des plantes qui auparavant ne survivaient qu'en climat méditerranéen s'acclimatent maintenant de mieux en mieux à Paris, par exemple. Et puis pour finir, dernier conseil donné par Samantha et que l'on ne peut que confirmer, testez, expérimentez, observez et amusez-vous.
La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !